Vous êtes toujours à l'écoute de RESF, hein, Réseau Éducation Sans Frontières, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et Mohamed, hein, donc tu es un jeune mineur, et tu vas nous raconter, tu as quel âge ? Tu as 16 ans. Et tu vas nous raconter donc ton parcours depuis la Guinée, la Côte d'Ivoire, et puis surtout la traversée de la Libye. Et donc on t'écoute.
Okay. Bonjour à tous.
Je m'appelle Mohamed. Je suis ivoirien d'origine guinéenne. Je suis parti de la Côte d'Ivoire en 2016. Après une dure épreuve là-bas, j'ai souffert d'une maladie fistine halale. Donc j'ai décidé de partir et laisser toute ma famille là-bas. Et j'ai traversé plein de pays avant d'arriver en Libye, comme le Niger et l'Algérie, avant de me retrouver en Libye. Mais c'était très difficile en Libye, ce que je voyais là-bas, c'était très difficile. Parce que les Libyens maltraitaient tellement les Noirs, et là-bas c'était la guerre. Mais moi, j'avais déjà vu la guerre un peu en Côte d'Ivoire, mais par contre d'autres personnes que j'ai croisées là-bas n'avaient pas vu la guerre dans leur pays. Et c'était très difficile pour eux. Parce qu'il y avait toujours les bruits des armes la nuit comme la journée. C'était très difficile pour eux. Et là-bas, quand tu es noir, tu as la peau noire, tu n'es pas le bienvenu là-bas dans leur pays. Et après une dure épreuve qu'on a traversée là-bas, on a réussi à traverser la mer pour rejoindre l'Italie. Et après, arrivé en Italie, j'ai fait 6 mois en Italie parce que je suis arrivé en Italie en novembre, le 30 novembre 2016. Quand je suis arrivé en Italie, je me suis rendu compte que je me trouvais dans le continent européen. Et j'étais en Italie avec quelques copains que j'ai effectué le voyage. Et là, du coup, comme c'était pas facile en Italie là-bas avec la langue italienne qu'on comprenait un peu pas. Parce que déjà en Côte d'Ivoire, déjà je parlais le français. Là-bas, même si tu vas pas à l'école, tu te débrouilles un peu pour parler la langue française. Et c'est ce qui m'a aidé. Que je suis arrivé là-bas et je me suis rendu compte que j'étais dans le continent européen. J'ai cherché les pays qui parlaient la langue française, au fait. Et j'ai fait 6 mois en Italie. Mais du coup, c'était très difficile pour nous parce que déjà, on était isolés dans le camp où on se trouvait. On n'arrivait pas à communiquer avec les Italiens. Parce que quand tu es dans un pays où tu ne comprends pas la langue et tu ne te retrouves pas parmi des gens qui parlent la langue, c'est très difficile pour toi de comprendre la langue. Et c'était très difficile pour moi et du coup, j'ai décidé de quitter l'Italie pour venir en France. Et avec mon copain que j'ai effectué mon voyage depuis le Niger, on s'est séparés en Italie parce que lui, il a décidé d'aller en Allemagne. Et moi, j'ai décidé de venir en France. Parce que je voyais, quand tu te retrouves dans un pays où tu ne comprends pas la langue, c'est très difficile. Surtout quand tu es isolé dans le pays où tu te trouves et puis tu ne comprends pas la langue, c'est très difficile. Mmh. Et moi, j'ai décidé un jour de venir en France.
Et pour venir en France, tu as fait comment ?
Alors, pour venir en France, dans l'endroit où je me trouvais, parce que c'est là-bas, j'ai laissé mon copain. Et un mois ou 2 mois après, lui aussi, il est parti après. Mais je me suis levé un matin, je suis allé, parce qu'on était dans la ville de Torino. Je suis allé couper mon billet pour rejoindre 20 000 parce que on m'avait déjà renseigné un peu que pour rejoindre la France, il faut que tu passes par 20 000 ou autre endroit. Et moi, je voulais passer par 20 000, donc j'ai coupé mon billet à 19 euros pour arriver à 20 000. Et arrivé à 20 000, je ne connaissais personne en fait, j'étais seul, je ne connaissais personne, donc c'était très difficile. Je voyais plein de personnes qui étaient plus grands, plus âgées que moi. Donc c'était très difficile pour moi, donc que je suis arrivé là-bas, je ne savais pas comment faire, à qui m'adresser. Je voyais, il y a des personnes qui s'est dirigées pour venir vers moi, pour me demander si je vais traverser pour aller en France. Ils me proposent de les payer pour me faire traverser par les montagnes et tout ça, mais moi je n'ai pas accepté. Et là du coup, je me suis dirigé envers une autre personne pour aller lui demander est-ce que je ne peux pas passer par le voie des trains pour rejoindre la France. Il m'a dit c'est très difficile. Il m'a dit parce qu'il y a des contrôleurs qui vont t'attraper. S'ils te voient monter dans le train, ils vont te retourner dans le côté italien. Et lui, il m'a proposé de lui payer de l'argent. Il va me cacher dans le train pour me faire traverser. Et je lui ai demandé, je vais le payer combien. Il m'a dit, je vais lui donner 150 euros. Et là, on a discuté. Je l'avais dit, je n'ai pas ça. Il m'a dit de payer 100 euros alors. Et du coup, comme j'avais un peu d'argent, je l'ai payé. Il m'a mis dans le train, dans un petit endroit dans le train. Et il m'a dit, c'est ici, tu vas te cacher jusqu'à Nice ou à Cannes. Et après, quand le train gare, tu descends. Et c'est ce que j'ai fait. Il m'a craché. Je ne suis pas descendu, je n'ai pas bougé jusqu'à... Quand je me suis rendu compte que je suis arrivé à Cannes, je suis descendu. Et quand je suis descendu, j'ai constaté que tout le monde parlait le français et tout ça. Je me suis rendu compte que j'étais en France et tout ça. Mais moi, je voulais venir à Paris, au fait. Ma destination, c'était à Paris. Et de là-bas, j'ai demandé le prix du train jusqu'à Paris. C'est combien? Ils m'ont dit, c'est 97 euros. J'avais aucun papier sur moi pour acheter un billet et tout ça, parce que j'avais peur qu'on m'arrête, que la police française m'arrête sur la route. Et du coup, j'ai croisé un monsieur sénégalais. Je l'ai supplié de m'acheter un billet avec sa carte. Peut-être lui, il avait une carte d'identité et il a accepté. Il m'a acheté un billet. Je lui ai remis l'argent. Il a acheté un billet pour moi. Il m'a remis. Il m'a expliqué comment je devrais faire pour monter dans le train et tout ça. Et du coup, j'ai pris le train pour venir à Paris. Je suis arrivé à la gare de Lyon à 23h. Je ne connaissais personne. Et là, je suis descendu, je regarde, c'est ma première fois de venir en France, je ne connais personne et je ne sais pas à qui m'adresser. Et ce qui m'a sauvé un peu, comme je comprenais la langue, je me débrouille un peu dans la langue française.
Tu parles tout à fait français, comme n'importe quel français.
Et là, du coup, j'ai vu un monsieur qui était devant la gare la nuit, je ne sais pas si c'était les gardiens de la gare. Je me suis renseigné auprès de lui, c'est où se trouvait la Croix-Rouge ou un truc comme ça, où se trouvaient les Ivoiriens beaucoup, dans quel secteur où se trouvent les Ivoiriens pour les croiser et essayer de me renseigner pour me guider vers la Croix-Rouge parce que je ne connais personne. Et du coup, il m'a expliqué un peu, il dit de patienter jusqu'à le matin parce qu'il faisait déjà nuit quand je suis parti. Quand je me suis dirigé vers lui pour qu'il me renseigne, il était déjà minuit. Et lui, il devrait rentrer. Il m'a dit de me patienter, d'aller m'arrêter où il y a l'arrêt des bus. Comme il y a toujours des gens qui viennent prendre le bus pour rentrer, là, il y aura toujours des gens. Il ne faut pas de ne pas rester devant la gare, sinon les gens peuvent venir m'agresser. Mmh. Et du coup, j'avais très peur. Donc, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Je suis allé m'arrêter à côté de l'arrêt des bus. Donc, il y avait toujours des personnes qui venaient jusqu'à 3h, 4h, jusqu'à le matin. Et le matin, je ne savais pas où aller. Et du coup, j'ai essayé de me renseigner aussi auprès de ceux qui venaient emprunter le bus pour aller dans leur lieu de travail. Et ils m'ont dit de me diriger vers Courogne ou Château d'Eau. Château d'Eau, c'est un endroit qui se trouve non loin de la gare de l'Est. Il y a plein d'Afriques, un peu d'Africains là-bas qui viennent travailler là-bas souvent. Donc, j'ai réussi à rejoindre là-bas et j'ai trouvé des Ivoiriens là-bas, j'ai essayé de me renseigner auprès d'eux, c'est où la Croix-Rouge. Et là, j'ai eu quelqu'un pour me guider, il m'a dit de prendre quelle ligne de métro. Je connaissais, je ne savais même pas comment acheter un ticket ou un truc comme ça. Et je l'ai supplié d'acheter un ticket pour moi et m'expliquer, écrire l'adresse de la Croix-Rouge pour moi qui se trouve à Courogne pour que je puisse me rendre là-bas et puis me déclarer. Et il a fait ça pour moi et je me suis rendu à la Croix-Rouge. Arrivé à la Croix-Rouge, je suis rentré, on m'a reçu, mais j'avais aucun papier sur moi, j'avais mon sac à dos. Ils m'ont demandé quand est-ce que je suis arrivé en France. J'ai dit là, je suis arrivé depuis hier nuit et j'ai dormi au dehors, je ne connais personne, j'ai peur, je ne sais pas où aller. Donc on m'a dit, je cherchais la Croix-Rouge pour venir me rendre et puis me déclarer. Et ils m'ont reçu, ils m'ont demandé si j'ai un papier. J'ai dit non, je n'ai aucun papier. Et là, la dame qui m'a reçu, parce que quand je suis rentré, j'ai trouvé un monsieur qui travaille là-bas à la Croix-Rouge de Courogne, qui est grand détail. Dès que je suis rentré, j'ai salué. Il m'a demandé mon nom, je lui ai dit mon nom. Il m'a parlé à ma langue maternelle, qui est le peul. Mm-hmm. Et j'ai dit, ouais, il m'a demandé, je suis peul. J'ai dit, oui, je suis peul. Il m'a parlé à ma langue et il m'a dit, ok, cette dame va te recevoir. Et la dame m'a reçu. Elle m'a demandé mon parcours un peu, je l'ai raconté. Et elle m'a dit, si vraiment c'est hier que je suis venu en France, je lui ai dit oui, bien sûr. Mais elle m'a dit, je m'exprime bien en français. Elle dit, oui, en Côte d'Ivoire, on parle le français en Côte d'Ivoire. Et au premier moment, elle ne me croyait pas. Elle se disait qu'il y a longtemps que je suis en France. Je dis, non, je viens d'arriver, je suis venu depuis hier nuit. Et à la fin, elle m'a cru et elle m'a dit de me patienter, qu'aujourd'hui, je ne vais pas dormir au dehors. Elle a accepté de m'envoyer à l'hôtel Saint-Sébastien, qui n'est pas loin de Bataclan, avec d'autres personnes que j'ai croisées là-bas, des mineurs isolés aussi. Comme il y avait plusieurs nationalités, des Afghans, des Tchadiens, des Somaliens et tout ça. Et on était plus de 8 personnes qu'on avait envoyées le même jour à l'hôtel Saint-Sébastien. Et du coup, quand on est arrivé à l'hôtel, on était là-bas. Après, le lendemain, on nous a demandé de revenir à la Croix-Rouge là-bas pour nous donner un jour où on doit revenir faire notre évaluation. Et du coup, le lendemain, on est revenu, on nous a donné la date et tout ça. Et 2 semaines après, moi, j'avais mon rendez-vous pour venir faire une évaluation. Et quand je suis venu, on m'a demandé de raconter mon parcours. J'ai raconté tout ce que j'ai vécu, la souffrance que j'ai vécue en Libye et tout, mon parcours, tout ce que j'ai vécu. Et du coup, après, ils m'ont dit de me patienter pendant quelques jours ou quelques semaines. Le résultat de mon évaluation allait d'aller me trouver à l'hôtel. Qu'ils allaient de m'envoyer un papier pour mon résultat. Je dis OK, il n'y a pas de souci. Et je me suis patienté. Mais à l'hôtel là-bas, ce n'était pas facile parce qu'on était très nombreux. Dans les chambres d'hôtel, on était plus de 3, souvent 4 personnes. Et il y avait des punaises qui nous piquaient. Je croisais des copains marocains ou algériens parce qu'ils ont la peau blanche et nous, on a la peau noire. Donc souvent, quand les punaises nous piquent, pour nous, ça apparaît pas en même temps. Mais avec ceux qui ont la peau blanche, quand les punaises les piquent, ça apparaît en même temps. Du coup, j'avais un copain marocain que j'ai connu là-bas. J'ai vu que sa main avait plein de petits boutons. Je lui ai demandé qu'est-ce qui lui arrivait. Il m'a dit que c'est le truc qui venait le piquer la nuit. Mais quand le matin arrive, il ne voyait rien. Mais c'est la nuit, les trucs venaient le piquer. J'ai dit peut-être c'est les punaises parce que les punaises m'avaient déjà piqué en Libye. Je l'ai expliqué, j'ai dit c'est les punaises. Je l'ai encouragé d'aller se plaindre aux mains de ceux qui travaillaient à l'hôtel, ceux qui nous surveillaient à l'hôtel là-bas. Et il a fait ça. Quelques jours après, ils sont venus désinfecter l'hôtel. Ils sont venus pomper des trucs. On nous a demandé de sortir et puis ils vont pomper des trucs dans les chambres. Et après ça allait un peu. Mais il y avait toujours d'autres personnes qui se plaignaient. Il y a des trucs qui venaient les piquer la nuit et tout ça. Donc c'était très difficile. Et après deux semaines, je me suis retourné à l'hôtel. J'ai demandé à la dame qui m'a effectué l'évaluation. J'ai dit, vous m'avez promis que j'allais recevoir mon résultat dans une semaine ou quelques jours. Mais jusqu'à présent, je suis à l'hôtel. Ça, là-bas, c'est pas facile. Donc, j'attends toujours mon résultat. Elle m'a dit de me patienter encore. Et il y avait ces femmes qui venaient devant la Croix-Rouge, ces femmes bénévoles, comme Agathe Nadimi et Madame Malika, qui sont les femmes très gentilles et qui nous aidaient tellement avec les petits déjeuners, parce qu'au fait, on ne connaît personne. On ne sait pas où aller. On se retrouve dans un pays où on ne connaît personne. Et il y avait ces femmes-là qui nous aidaient, qui nous conseillaient, qui nous encourageaient de ne pas perdre espoir parce que c'était très difficile. Et du coup, on patientait. Donc après quelques semaines encore, je suis revenu parce que du coup, j'ai fait 1 mois, 10 semaines à l'hôtel là-bas. J'attendais toujours mon résultat. Mais en attendant mon résultat, il y avait plein de personnes qui venaient toujours, qui partent, parce que qui venaient, qui faisaient quelques semaines ou quelques jours, qui faisaient leur interview, on leur donne leurs résultats et ils partent. La plupart, c'est les négatifs, on les donnait après leur évaluation. On les donnait non, on t'a pas pris, on ne sait pas pourquoi. Donc moi-même, je me disais que moi aussi, j'allais passer par là, ils vont jamais me prendre. Et du coup, j'ai décidé de repartir à l'hôtel là-bas pour demander si mon résultat n'allait pas de sortie. Et la dame qui m'avait effectué l'évaluation m'avait dit, quand je suis venu une troisième fois pour la demander si mon résultat n'est pas encore sorti, elle m'a demandé c'est dans quelle salle que j'avais effectué mon évaluation avec elle. Je l'ai expliqué et elle m'a dit qu'elle allait partir voir. J'ai dit ok, elle m'a dit de l'attendre. Elle est rentrée dans la salle pour voir et après elle est revenue me dire qu'elle avait oublié d'envoyer mon évaluation que j'ai effectuée avec elle. Et moi, ça m'a tellement touché. J'ai dit, je l'ai expliqué qu'à l'hôtel, c'était pas facile. Moi, j'attendais toujours. Du coup, si j'étais pas venu me plaindre, j'allais toujours les rester là-bas en attente. Pourtant, vous n'allez pas envoyer l'évaluation que j'effectue avec vous. Et elle m'a dit de revenir dans 2 jours. Encore, après que je suis parti à l'hôtel, 2 jours après, ils m'ont envoyé un papier où il y avait plusieurs noms. Et tous les noms qui étaient sur ce papier, c'est des personnes qui n'étaient pas acceptées. Il y avait plus de 15 ou 14 personnes. Et nous tous, on nous a demandé de prendre notre bagage et d'aller à la Croix-Rouge. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis rendu compte en même temps que j'allais quitter l'hôtel, j'allais me retrouver dans la rue. Et quand je suis allé à l'hôtel, ils m'ont reçu un truc, ils m'ont fait croire que le juge ne m'a pas accepté, c'est comme ça. Et tout, et c'était très difficile. Et cette dame qui m'a reçu m'a dit, ah, le juge ne m'a pas accepté, que je devrais libérer l'hôtel. Et je l'ai demandé, je vais libérer l'hôtel, je vais me retrouver où maintenant, je vais aller dormir où. Elle m'a dit, elle ne sait pas, mais je devrais libérer l'hôtel. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc je n'ai plus insisté avec elle. Et je me rendais compte, j'étais pas le seul. C'était avec plein d'autres personnes qui étaient dans le même délit, problème que moi. Et donc je dis, il n'y a pas de problème, j'avais mon sac à dos. Et puis là, ils m'ont donné ma lettre de refus et tout. Après, on nous a demandé de sortir de la Croix-Rouge. Et là, du coup, on est sorti de la Croix-Rouge. On ne savait pas où aller, on ne connaît personne. Et c'est comme ça qu'on a commencé à dormir dans les parcs et tout ça. Dormir dans les différents parcs. S'est retrouvé dans les rues, dans les parcs, avec des vieilles personnes qui peuvent avoir même âge avec notre parent. Et des personnes qui n'arrêtaient pas de nous harceler la nuit et tout ça. C'était très difficile. Et jusqu'à présent, ça continue.
Donc c'est un parcours qui est et quels sont maintenant, quels sont donc Sylvie, donc tu...
Alors c'est Mohamed a tout dit, c'est un parcours très ordinaire, sauf que il est devenu maintenant rare d'être reçu au Demi Croix Rouge, c'est-à-dire que quand on, il suffit de se
alors,
poster
Demi, on va quand même dire
alors que le Demi, c'est l'organisme d'évaluation de la Croix-Rouge, qui a dû être à un moment le mieux disant pour évaluer la minorité d'un jeune. On continue à se demander, même si c'est théoriquement encadré par la loi, comment évaluer la minorité d'un jeune. Ben, en fait, c'est parfois évalué au faciès, donc le jeune, on lui dit qu'il a l'air trop vieux et qu'il ressorte, que les gens de 32 ans, on en a déjà vu, ou bien le principe de régulation du nombre des mineurs qui reste presque identique tous les ans, il est aussi atteint en disant « Ah ben non, 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 ici c'est la Croix-Rouge, c'est pas pour les mineurs », ou bien « Ah non, tu es un demandeur d'asile ». Et on leur donne ou on ne leur donne pas un papier pour partir. On a du mal à comprendre parce que des fois, il y a des jeunes qui sont vraiment très jeunes, qui ont l'air d'avoir 14 ans, qui sont remis à la rue. Et puis, des fois, une fois de temps en temps, une grande perche qui est à l'hôtel. Et une fois qu'ils sont à l'hôtel, alors on va dire 9 personnes sur 10 sont rejetées au faciès. Mais sur ceux qui restent, qu'est-ce qu'ils font là ? La loi dit qu'ils devraient passer 5 jours à se reposer, pendant lesquels on les observerait, puis qu'ils devraient passer un entretien qui décide s'ils sont mineurs. Bah, déjà, on n'a pas le temps de les observer. Ce qu'on fait, c'est tous les jours, ils ont un ticket de métro, ils doivent aller chercher un autre ticket de métro pour leur retour. Donc, ils doivent retraverser tout Paris pour aller au métro Couronne chercher un ticket de métro pour pouvoir rentrer. Est-ce qu'ils déjeunent ? Non, pas toujours. Dans certains hôtels, on a déjeuné, dans d'autres, on n'a pas. Dans d'autres, on a pour dîner du riz avec du pain. Donc, Mohamed vous a dit aussi que depuis quelques mois maintenant, se sont installés des bénévoles qui ont décidé de récupérer de la nourriture partout où ils peuvent, qui arrivent chaque jour à assurer 90 déjeuners chaque jour devant le Demi pour les jeunes en attente, pour les jeunes rejetés au faciès ou pour les jeunes qui ont faim, quelle que soit la situation. On peut très bien aussi être au SEMNA, c'est-à-dire à l'ASE de Paris, et avoir faim. Ça arrive aussi. Et donc, ces bénévoles, c'est merveilleux, d'abord pour l'ambiance qu'elles entretiennent, à côté de l'horreur quand on est à l'intérieur de la Croix-Rouge, qu'on vous raconte n'importe quoi, qu'on essaie de vous faire peur. Donc, ces bénévoles rassurent les jeunes et les orientent, leur expliquent que si on a oublié de leur donner un papier retour à la normale pour les jeter dehors, en leur disant « tu dois aller voir le juge », on leur explique « ils veulent dire que tu dois aller voir un avocat, tu peux aller au palais de justice, ou bien, l'adresse qu'on ne leur a pas donnée, tu peux aller à l'ADJI qui s'occupera de toi, qui écrira au juge ».
L'ADJI, donc c'est...
Alors, l'ADJI, Aide et Défense des Jeunes Isolés, Paris 19e, qui s'occupe de plein de choses, observer et faire du plaidoyer un petit peu pour que ça avance. Avec le GISTI, on n'hésite pas aussi à recourir à des choses beaucoup plus juridiques pour essayer de faire avancer. Mais comme vous le savez, la ville et l'État sont dans la plus grande illégalité. Donc, l'ADJI et RERESF, mon autre casquette, on se retrouve simplement du côté... Il y a une loi, il faut peut-être l'appliquer.
Est-ce que tu peux nous donner très vite, avant de passer à notre agenda, puisque cette émission est un petit peu écourtée, l'adresse est de l'ADJI où envoyer les jeunes et du DEMI, là où il se trouve, où, si on veut rejoindre les bénévoles qui préparent des repas, qui s'occupent de l'accueil, qui essaient de s'occuper de l'accueil.
Alors, le DEMI, c'est le métro Couronne, ligne 2. C'est un peu dur à trouver, c'est rue du Moulin Joly, personne ne connaît cette rue. Quand on sort du métro Couronne, on descend sur sa droite et on tourne tout de suite à droite, après avoir passé tout le matériel des mosquées du coin. On se trouve aux 4 rues du Moulin Joly, on voit une grille. Si on est mineur, on essaye d'entrer dedans. Et si on est majeur et qu'on veut rencontrer Agathe, Malika et leurs camarades, on regarde tout simplement vers 11h du matin, du lundi au vendredi, les personnes qui sont en train de nourrir les jeunes, d'essayer de les vêtir, de donner des cartes SIM LICA, parce que c'est leur vie aux jeunes. Il y a peut-être d'autres moyens de les joindre par Facebook ou en retrouvant d'autres militants.
Jeudi et vendredi à Couronne.
Alors, le jeudi et vendredi, en fait, elle donne que le petit déjeuner, elle ne donne pas à déjeuner. Parce que à 10h et entre 10h et midi, on fait des cours de français, les cours de Couronne. Les cours de Couronne, c'est 120 jeunes qui apprennent le français, quel que soit leur niveau. Ça peut être des non-scolarisés antérieurement qui apprennent à lire et à écrire, des jeunes qui ne parlent pas français qui apprennent le français, et ça peut être des jeunes déjà très doués en littérature qui apprennent à intégrer une classe de seconde générale, comme ça arrive parfois. Donc ça, c'est le côté des bénévoles pour la survie, pour le culturel. De l'autre côté, mais on est étroitement en lien, vous pouvez avoir le côté ADJI, donc pour les jeunes isolés eux-mêmes, pour d'urgence faire venir les papiers du pays, parce que les jeunes n'y connaissent rien au pays, en papier, et personne ne les aidera. C'est donc au métro Stalingrad, 49 Terre, avenue de Flandre, Paris 19e. Et ensuite, dès qu'on a l'occasion, on met les jeunes à l'école. Malheureusement, il y a une situation ubuesque qui fait qu'on ne peut pas aller à l'école avant d'avoir été reconnu par le juge. Mais déjà, d'urgence, on doit passer des tests. Sinon, on peut attendre une année entière reconnue par le juge avant d'aller à l'école si on n'a pas pris ses précautions.
Voilà. Eh bien, donc, on va tout de suite passer à notre agenda et puis on fera l'autre pause musicale après. Je rappelle, parce qu'on doit recevoir un coup de téléphone des permanents de la radio qui sont au rassemblement à Panthéon pour le maintien des contrats aidés ou du moins leur transformation envers quelque chose qui serait plus intéressant et pas leur suppression pure et simple. Donc, je passe tout de suite à notre agenda. Et...